Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halo Mondi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
À quand les prochaines élections au Mali? Où en sommes-nous avec les réformes électorales? Qu'est-ce qui doit changer? Ce sont entre autres questions que se posent certains Maliens après plus de 17 mois de transition. Le premier tour de l'élection présidentielle qui devrait se tenir le dimanche 27 février 2022 n'a pas eu lieu. Quel est l'état des lieux? Le studio Tamani pose le débat aujourd'hui avec comme invité M. Fousseni Diop, membre de la mission d'observation des élections au Mali, modèle Mali. Bonsoir M. Diop. Monsieur Boubacar Boukoum, il est politologue. Bonsoir, monsieur Boukoum. Nous avons au téléphone madame Loda Koulibaly du réseau des jeunes femmes leaders des partis politiques et organisations de la société civile. Le thème du grand dialogue d'aujourd'hui, c'est réforme électorale, quel est l'état des lieux? Et c'est une présentation de Mariam Koulibaly. Bienvenue.
Le grand dialogue.
Alors, monsieur Boukoum, quel est l'état des lieux aujourd'hui des réformes électorales annoncées par les autorités?
Bon, je pense que les réformes, elles ne sont pas du tout prêtes, dès lors que le découpage qui est d'abord fondamental par rapport à l'architecture qu'il faut mettre en place n'est pas encore terminé. Et la loi électorale aussi est en gestation. Je pense qu'à la date d'aujourd'hui, si j'ai bonne mémoire, ça doit être au niveau de l'instance de la législation. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas de visibilité par rapport à cette loi électorale, encore moins une clarification au niveau du découpage politique. Et l'autre chose, c'est que fondamentalement, l'architecture institutionnelle doit être modifiée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut une constitution qui s'adapte à la réalité de la gouvernance économique, sociale et culturelle du nouvel découpage qui va avoir lieu. Donc, à la date d'aujourd'hui, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on est prêt pour aller aux élections.
Monsieur Diop, pas de visibilité, c'est votre avis?
Oui, je pense que c'est effectivement ça. On peut savoir que par rapport aux avancées, il n'y a pas grand-chose, on peut le dire. Parce que je pense que le programme qui était déjà dit avant même l'arrivée de ce Premier ministre, il y avait déjà un programme qui était établi par rapport aux élections. Parce que moi, je me dis, avant de partir aux élections, il faut certains préalables. Il a dit notamment la révision de la loi électorale qui est jusqu'à présent dans les instances. Il n'y a pas de consensus autour de ça. Les progrès aussi annoncés, notamment la création de l'aide de l'autorité indépendante de gestion des élections n'a pas encore vu le jour. Donc au moment où nous parlons, nous sommes sous le statu quo, c'est-à-dire l'ancienne loi de 2016 modifiée en 2018 qui gère normalement les élections. Et je pense que aussi par rapport à cette ancienne loi, il y a la révision des listes électorales qui s'est faite. Mais on a remarqué aussi pendant que cette révision des listes électorales, il n'y a pas eu d'inscription de nouveaux majeurs, alors que l'État avait quand même investi pas mal d'argent par rapport à l'enrôlement des nouveaux majeurs, mais qui n'ont pas été reversés sur la liste électorale. Donc ça a été un manquement et ce processus a été bouclé. Maintenant, en termes de fichier électoral qui doit servir aussi par rapport à la conception du fichier électoral, je pense que ça aussi, jusqu'à présent, on n'a pas de visibilité claire autour de ça. Et comme je l'ai dit, ça doit être aussi couronné par un consensus politique autour de tout ce qui va se passer en matière électorale. Notamment, on pense que si l'aide est créée, est-ce que c'est l'aide encore qui va publier les résultats définitifs, qui est une attribution de la Cour constitutionnelle. Donc, je vois qu'il y a beaucoup... pas mal de préalables qui devraient être faits, notamment le toilettage des textes, la charte des partis politiques, la loi organique des députés, tout ça. Donc rien de tout cela n'est encore, disons, final. Donc on peut dire que pour aller aux élections, aujourd'hui, nous ne pouvons pas parce qu'on n'a ni de chronogramme clair et précis qui va nous dire quelles sont les étapes à franchir avant d'arriver à ces élections. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a pas assez d'avancées, malgré qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans les couloirs au niveau du gouvernement.
Madame Koulibaly, Loda, votre réseau, quel a été votre constat sur le terrain en termes d'organisation des élections? Madame Loda Koulibaly. Madame Loda, le temps de retrouver Madame Loda. Monsieur Diop, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avant la tenue de ces élections? Qu'est-ce qui doit être fait?
Voilà, c'est ce que je disais tout de suite. Je pense avant d'aller aux élections, il faut d'abord les réformes en matière de loi électorale. Et aujourd'hui, je disais tantôt que l'ancienne loi qui est jusqu'à présent, elle n'est pas ancienne parce qu'elle est encore en vigueur, qui court, voilà, dit qu'il y a trois organisations qui gèrent les élections, notamment qu'on appelle la DGE, le ministère de l'administration territoriale et aussi la CENI. Et jusqu'à présent, c'est ce statu quo. On sait que la CENI, les membres ont été remerciés et tout ça, il n'y a pas de CENI en place actuellement. Donc, il faut d'abord relire cette loi électorale.
Mais selon vous, qu'est-ce qui bloque?
Oui, bon, je pense que c'est l'initiative, c'est au gouvernement de faire cela. Aujourd'hui, l'autorité, l'aide qui a été proposée, notamment l'autorité indépendante de gestion des élections, aujourd'hui, il n'y a pas de consensus autour de ça. Il y a plus de 6 grands partis politiques au Mali qui refusent cette forme-là, qui disent qu'ils souhaitent que les élections aient lieu, mais qu'on retourne à l'ancienne forme. Donc, je pense que ça, c'est un blocage. Et cette loi, jusqu'à présent, n'est pas passée aussi devant le CNT pour que cette loi soit une réalité. Comme je l'ai dit, il faut aussi nettoyer le fichier électoral. Il faut que le fichier électoral soit un fichier électoral fiable et consensuel pour que tous les parties prenantes autour des élections soient aussi d'accord avec ça. Et je pense qu'à ces jours, comme je l'ai dit, il y a une révision ordinaire des listes qui a été faite, mais qui n'a pas pris en compte pas mal de points, comme je l'ai dit, notamment la prise en compte des nouveaux majeurs dans la liste électorale qui n'a pas été faite. Donc aujourd'hui, si nous voulons aller à des élections, il faut un fichier électoral. Et aussi se mettre d'accord par rapport aux conceptions des cartes d'électeurs ou même une organisation même du territoire. Comment est-ce que ces élections vont se tenir? Si on doit aller aux législatives, est-ce à l'ancienne forme? Parce que je vous rappelle juste que par rapport faisons les élections législatives sur la base de la loi qui fixe la population nouvelle depuis 1996. Et aujourd'hui, nous savons que la population, c'est à plus de 20. Donc, la notion de représentativité aujourd'hui cause un véritable problème. Est-ce qu'on va aller vers les anciens cercles, circonscriptions administratives qui sont créés seulement, ou encore les nouvelles régions qui viennent de rentrer là-dedans, qui n'ont pas encore, les cercles n'ont pas encore été déterminés. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut plusieurs préalables, notamment la relecture de la loi organique des députés, la relecture de la loi électorale, et même encore la charte des partis politiques. Donc, je pense que aussi en matière de gestion des élections, quel est l'organe qui va gérer ces élections-là et quelles seront ses attributions? Si toutes ces questions ne sont pas élucidées aujourd'hui, il serait difficile de parler d'élections.
Monsieur Boukoum, votre co-débatteur vient de parler de plusieurs points qui bloquent vraiment cette réforme électorale. Vous partagez son avis ou bien vous avez quelque chose d'autre à ajouter?
Oui, en grande partie, tout ce qu'il dit, c'est la réalité. Mais juste aujourd'hui que nous n'avons pas le curseur exact pour évaluer. Parce que seul le gouvernement, l'administration territoriale peut nous dire aujourd'hui où est-ce qu'on en est réellement. C'est sûr que toutes les questions que nous sommes en train d'aborder ici sont en cours d'être élaborées. Mais maintenant, s'il n'y a pas une communication claire autour de ces différentes questions, c'est difficile de se prononcer là-dessus. Je pense que c'est là essentiellement le problème. L'autre chose, c'est de dire aujourd'hui, il est même difficile par rapport à l'accord issu du processus d'Alger, de savoir aujourd'hui quel modèle de régime présidentiel nous allons avoir, quel régime. Est-ce qu'on va continuer à avoir un président de la République avec la verticale ou est-ce qu'on va avoir un régime parlementaire, un régime présidentiel, semi-présidentiel? Qu'est-ce qu'on va prendre comme objectif? C'est ça un peu la difficulté. Parce qu'aujourd'hui, nous avons conscience aussi que le blocage et toutes les crises que nous avons connues en grande partie sont dues au fait qu'il y avait la mauvaise gouvernance. Mauvaise gouvernance du fait aussi que tout était central. Donc les collectivités décentralisées, on a fait un transfert politique, mais après les ressources n'ont pas suivi. Mais quand vous regardez dans certaines localités, vous verrez qu'effectivement, ces localités sont très riches. Par exemple, quand vous prenez la région de Kaï, on a beaucoup de mines qui sont de la région de Kaï. Mais quand vous regardez le développement économique, social et culturel de cette zone, vous verrez que ça laisse à désirer. Donc autant Kidal va réclamer le non-développement, autant quand vous observez de très près, vous verrez que Kaï aussi n'est pas développé. Donc du fait que ces deux entités qui analysent le problème différemment, vous allez voir que le Sud, qui était capable de produire, a soutenu le Nord dans un principe de subsidiarité. Donc aujourd'hui, il va falloir qu'on rééquilibre, qu'on trouve des mécanismes qui vont permettre effectivement de dire que le développement économique de chaque région, dans le concept de la décentralisation, il faut des nouvelles attributions. Donc il faut que cela soit défini clairement, non seulement dans l'architecture politique et dans l'architecture économique. Parce qu'il faut qu'économiquement, chaque localité soit capable de créer et de générer de la ressource. Maintenant, la péréquation générale de l'État central qui va essayer de trouver les équilibres, il faut qu'on trouve un modèle qui puisse gérer ce genre d'ensemble. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire que pour avoir un puits à Kidal, il faut que Bamako décide de le faire. C'est très loin, l'appréhension même est très difficile. C'est des choses qu'on peut faire dans la proximité avec plus de flexibilité et avec les ressources locales. Donc effectivement, si on n'a pas une planification centrale qui permette de définir tous ces éléments qui concourront à faire en sorte que les communautés locales puissent profiter de leurs richesses et avoir engranger un développement, ça va toujours continuer à être des crises. Donc il y a un modèle, l'architecture institutionnelle, il faut la retoucher. Est-ce qu'aujourd'hui, on va aller vers un modèle fédératif ou est-ce qu'on va faire en sorte qu'il y ait une seule élection des députés où on va choisir le président de la République? Parce qu'en fait, même le modèle d'élection aujourd'hui pose problème. Parce que si 51% suffit pour que vous soyez président de la République, ça veut dire que 49% vont rester à la touche. Ce qui n'est pas correct. parce que 49% quand même c'est trop pour qu'on puisse dire qu'un pays va être stable. Donc on pense que quelque part il faut amener une dose de proportionnalité pour que ces 49% aussi soient représentés. Donc dans les compartimentages ethniques, communautaires, si on ne fait pas attention, ça va créer des problèmes. Donc il faut que chaque entité soit à quelques niveaux représentés dans le système de la gouvernance. C'est là où les populations vont se reconnaître dans le modèle de gouvernance. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un décalage énorme entre la compréhension de ce que nous, on appelle à Bamako nos lois, notre assemblée, et tout ce qui est dicté, mais le citoyen qui est dans les confins de la brousse ne comprend rien à ce que vous dites, non seulement par rapport à la barrière linguistique et ensuite à la compréhension même des textes qui sont quand même des textes qui ne répondent à rien par rapport à leur compréhension de la gouvernance locale, des aires historiques et géographiques des différentes entités. Donc je pense qu'il y a un travail énorme à faire. C'est vrai, c'est difficile aujourd'hui d'évaluer ce qui est en train d'être fait dès que les dirigeants ne communiquent pas suffisamment sur ce qui est déjà disponible, les éléments sur lesquels nous devrions discuter. Et comme il l'a dit, il faut à un moment donné mettre tout ça sur la table et qu'on se mette d'accord sur qu'est-ce qu'il faut faire en réalité pour stabiliser le pays.
Madame Loda Koulibaly, quelles sont vos remarques, quels constats votre organisation a eu à faire concernant la réforme électorale?
Bonjour tout le monde, merci aux co-débatteurs et merci à Sidjo Tamani pour l'invitation. Comme l'ont dit les autres, la situation elle est très critique et il y a la non-communication du gouvernement sur ce sujet-là. Par rapport à notre organisation, nous travaillons plus pour l'implication des femmes et des jeunes au processus électoral. Mais il y a des soucis avant même que le processus électoral ne commence, parce qu'il y a des préalables qui doivent être faits. Par exemple, les autres l'ont dit, le fichier électoral doit être nettoyé, mais aussi la disponibilité des cartes d'électeurs, même si ce n'est pas des cartes d'électeurs ou soit les cartes NINA. Aujourd'hui, on a beaucoup de Maliens qui ont plus de 18 ans actuellement, qui ne peuvent pas voter parce qu'ils n'ont pas l'accès à la carte NINA. Et les cartes NINA ne sont pas disponibles. Il faudra que les autorités et la transition pensent à ceci. Au moment des élections, qu'est-ce que ces gens qui ont plus de 18 ans depuis des années, aujourd'hui, comment ils peuvent voter lors des élections? Parce que c'est primordial pour que le niveau des votants puisse aller à un niveau très, très souhaité. Maintenant, aussi, il l'a dit, la transparence dans la gouvernance, parce que les gens sont moins concernés par les élections parce qu'ils se disent que les élus ne travaillent pas pour eux. Ils sont là pour leur propre personne. Il faut que ça change pour que les gens puissent aller au vote, pour que les gens puissent s'impliquer réellement au processus électoral. Mais il est important dès maintenant qu'on soit d'accord sur l'autorité qui va vraiment s'occuper des élections. Et dans ces autorités-là, il faudra la représentativité de toutes les couches, pratiquement surtout les couches féminines et de la jeunesse. C'est important qu'on soit représenté à ce niveau-là pour depuis le début des processus électoraux jusqu'à la fin. Mais aussi, qu'on implique les jeunes et les femmes à la gouvernance locale. C'est important pour qu'on puisse sortir de cette situation-là. Mais le fait que les autorités ne communiquent pas sur là-dessus, on est bloqué. Mais je pense que pour qu'on puisse faire la relecture de la loi électorale, ou bien que ce soit la charte des partis politiques, il faut une révision de la Constitution. Ou bien, comme d'autres le disent, réécrire même notre Constitution-là. Parce qu'on a travaillé sur l'avant-projet de la loi électorale, mais il y a des blocages qui sont là. Tant qu'on ne révise pas la Constitution, il y a des éléments qui ne peuvent pas passer. Quand on veut faire la révision des lois, ça ne pourrait pas passer parce qu'il y a des blocages. Qui va s'occuper des élections réellement? Qui va s'occuper de donner vraiment les résultats définitifs des élections? C'est très important. Donc, il faudrait revoir tout ça là et que les autorités prennent tout ceci en compte dès maintenant pour qu'au moment opportun, on puisse aller avec des élections très crédibles et que pratiquement les 80% des Maliens ou bien même 100% des Maliens qui ont le droit de voter puissent aller voter. C'est très important.
Loda Koulibaly vient de parler d'inclusivité. Maintenant, on parle beaucoup d'organes uniques de gestion pour les élections. Pensez-vous que cet organe-là pourra gérer l'organisation des élections, Monsieur Diop?
Bon, moi je pense que c'est toute une question voilà, d'attribution. Maintenant, à l'heure où nous parlons, je pense que l'aide telle que formulée par le gouvernement quand même est rejetée par une partie de la classe politique. Je pense que c'est un point sur lequel il faut suffisamment regarder. Vous savez, quand nous sommes la société civile, nous donnons, nous sensibilisons, nous faisons en sorte que, voilà, que les populations puissent participer pleinement au processus électoral. Mais les vrais acteurs des élections, c'est les partis politiques. Et aujourd'hui, si l'État est en charge de mener ces réformes-là qui concernent les élections, il faudrait bien que les partis politiques puissent être d'accord avec les formes et les modalités. Sans quoi, on aura avancé, mais il faut encore que
nous retournons. Vous pensez qu'ils ont été exclus du processus ?
Bon, d'autres quand même pensent qu'ils sont exclus, même si, voilà, peut-être leurs représentants ne sont pas là, mais aujourd'hui, à l'heure où on parle, certains partis politiques disent carrément que l'aide formulée comme telle, ils ne sont pas d'accord. Alors que si nous regardons aussi les partis politiques, des grands partis politiques comme qu'on appelle le RPM ou qu'on appelle l'Yelema et tout ça, aussi sont des partis politiques aujourd'hui qui ne veulent pas de cette forme proposée par le gouvernement. Je pense que là, cette proposition, il faut qu'on analyse et qu'on dise comment est-ce que cela va être fait. Parce qu'aujourd'hui, l'avant-projet qui a été donné par rapport à la création de l'aide dit que ce n'est pas l'aide qui va, par exemple, donner les résultats définitifs. Parce que c'est une attribution, comme je l'ai dit, de la Cour constitutionnelle qui est actée dans la Constitution de février 92. Donc je pense que c'est des questions sur lesquelles il faut discuter. D'autres aussi, au niveau de la classe politique, pensent réellement qu'aujourd'hui, qu'il faille faire l'ancienne forme, que le ministère de l'administration territoriale puisse organiser et qu'on puisse renforcer davantage les rôles de la CENI en matière de suivi et de contrôle et que le fichier électoral soit géré par la DGE. Donc aujourd'hui, disons que même les sanctions sur lesquelles le Mali croule depuis 8 janvier, qui a été décrété par la CEDEAO, c'est parce que nous n'avons pas pu organiser les élections et nous devons proposer un chronogramme jusqu'à présent. L'État, malgré qu'il est en train de fournir des efforts à mettre en place des mécanismes, des cadres de concertation, aujourd'hui le Mali croule sous ces sanctions-là. Et ces sanctions-là ont été prises parce que l'État a été incapable d'organiser les élections à la fin de cette transition. Donc, du coup, c'est un problème. Et aussi, si nous voulons confier cela à un organe unique de gestion des élections, notamment l'autorité indépendante, aujourd'hui, il faut que la classe politique puisse être d'accord, que ça soit un consensus et que le jeu puisse être clair. Parce que certains pensent que c'est une manigance qui est en train d'être faite pour avantager un ou un autre clan. Mais aujourd'hui, tant que cette classe politique n'est pas d'accord et n'a pas de visibilité assez claire, il est très difficile parce que plusieurs acteurs interviennent. Parce que même nous qui sommes la société civile, il faudrait bien que nous sachions aujourd'hui quelle loi va gérer les élections. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, nous n'en avons pas. Alors que comment on doit sensibiliser qu'on appelle les populations ? Elle a parlé de représentativité des femmes et des jeunes. Comment est-ce que cela aussi va se manifester ? Je pense que c'est des questions majeures auxquelles il faut répondre. Et tant qu'on n'a pas la solution, des réponses à ces questions, il serait très difficile de dire oui, l'organe unique de gestion va être mis en place, mais aujourd'hui, techniquement, elle n'est pas née. Comment elle va se déployer ? Comment elle va être représentée au niveau déconcentré, au niveau décentralisé ? Je pense qu'il y a plusieurs questions qu'il faut élucider avant de dire que cette organe pourra gérer les élections.
Plusieurs questions à élucider avant la mise en place de cet organe unique de gestion. Vous partagez son avis, M. Bokou ?
Oh, bon, écoutez, en grande partie, oui, mais j'ai un bémol à apporter parce que d'abord, penser qu'on écroule sous les sanctions parce que nous n'avons pas pu organiser les élections, je pense que c'est un raccourci parce qu'il y a des enjeux géopolitiques et géostratégiques plus complexes que ce qu'il dit. Ce n'est pas exactement ça parce qu'il y a sous d'autres cieux, les mêmes phénomènes sont là, mais ce n'est pas la même façon de gérer le problème. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Le protocole de bonne gouvernance de la CEDEAO n'inclut à aucun moment des sanctions économiques, encore moins tout ce qu'on connaît. Donc, ça ne tient pas la route. OK, c'est vrai. Entre nous, on peut se dire effectivement que cette transition n'a pas pu amener le calendrier là où on souhaite. C'est critiquable, on peut tout dire ce qu'on veut, mais ça ne justifie pas cette attitude de la communauté internationale. Ça, c'est d'abord une première observation que je voulais faire. L'autre chose, c'est l'unanimité de la classe politique. D'abord, on ne peut jamais avoir une classe politique unanime. Et en plus, le mécanisme qui est décrié par certains partis politiques, c'est les partis politiques qui le décrit, étaient dans le système, gouvernés, et n'ont pas rendu compte de leur système de mauvaise gouvernance. Et je pense que c'est là où, effectivement, il faut interroger, faire l'audit de la classe politique et faire l'audit de la gouvernance. C'est trop facile de dire que le mécanisme n'est pas bon, mais OK. Que certains partis politiques ne soient pas d'accord avec ces propositions, est-ce que cela voudrait dire que ce qui a été proposé n'est pas bon pour l'ensemble des Maliens. Parce qu'il faut bien qu'on interroge tout ce qui est en train d'être fait. La CENI qu'on est en train de décrire aujourd'hui, dans le mécanisme de la CENI, toute la classe politique est présente de long en large, depuis le début du processus jusqu'en fin de course. Alors, donc, ce qui a posé problème de mon point de vue à un certain moment donné, c'est cette possibilité pour la Cour constitutionnelle de remettre en cause tout le processus. Parce que quand vous observez, vous allez voir que très rarement, il y a eu des contestations réelles au niveau de la déclaration de l'administration territoriale. C'est quand les dons changent par la validation définitive qu'il y a un souci. Donc, il y a un mécanisme qu'il faut certes revisiter, mais pour moi, le problème, ce n'est pas en termes d'organes uniques ou d'organes multiples. Parce que l'organe unique voudrait dire qu'on centralise et l'organe multiple veut dire qu'on va déconcentrer. Donc il y a des attributions de tâches. C'est pourquoi tantôt il parle de l'administration territoriale. Parce que vous allez faire des élections dans un espace, mais il faut bien que l'administration soit là pour vous accompagner. Donc l'implication de l'administration, on ne peut pas la contourner. Maintenant, quels sont les mécanismes de contrôle qu'on va mettre en place pour s'assurer de l'impartialité de l'administration, de la transparence des élections? Je pense qu'à ce niveau, ce sont ces mécanismes qu'il faut améliorer. Et ces mécanismes, ils sont adossés à quoi? De façon générale, à la mauvaise gouvernance administrative, politique, sociale, culturelle et religieuse dont nous sommes victimes aujourd'hui. À tous les niveaux, nous avons des soucis. Au niveau de l'État, il y a un problème de mauvaise gouvernance. Donc, quand vous avez déjà dans le chapeau le leadership de la gouvernance qui n'est pas fonctionnel, soyez rassurés que le politique ne fonctionnera pas, la société civile ne sera pas cette société civile dynamique et de contrepoids à laquelle vous aspirez, même la presse, elle n'est pas cette presse forte qui constitue un contre-pouvoir. Théoriquement, la presse est un contre-pouvoir. Mais quand vous regardez aujourd'hui à cause de la mauvaise gouvernance et le mécanisme d'appauvrissement, et excusez-moi l'expression, de l'abattardissement de la fonction, on se trouve à un système aujourd'hui où même ceux qui sont chargés, contrôlés, ne sont plus capables de contrôler parce qu'ils sont dans un système de corruption. Donc en réalité, il ne faut pas regarder sous un seul prisme, il faut regarder le problème dans sa globalité. Nous avons une crise globale, sociale et sécuritaire. Donc tous ces mécanismes sont imbriqués les uns aux autres. Donc cela nécessite effectivement un leadership inclusif et partagé pour permettre d'aller à un système de bonne gouvernance. Donc pour moi, aujourd'hui, la question de dire que est-ce que tous les partis politiques, d'abord, cette classe politique, elle est déjà décriée dans sa grande majorité. Parce que c'est ça le problème. On va dire grands partis politiques. Comment ces partis politiques sont devenus grands? Est-ce que c'est réellement à travers le véhicule d'un vrai message, porteur de changement, ou est-ce que c'est parce qu'avec la manne financière et tous ces mécanismes de corruption qui ont renfloué les caisses de ces différents partis, est-ce que c'est comme ça qu'ils sont devenus grands, oui ou non? Donc il faut faire un objectif réel. Donc il faut maintenant qu'on s'adosse à une idéologie, à une théorie scientifique qui permette de dire aujourd'hui, au-delà des déclarations plates des partis politiques en termes de déclarations d'intention, comme on le voit généralement dans la déclaration de politique générale du gouvernement, c'est juste des projets d'intention. Maintenant, est-ce qu'on est adossé à une science pour dire, quand vous dites que vous me donnez une bouteille d'eau, est-ce que vous êtes capable de me dire quel mécanisme économique vous allez mettre en œuvre pour avoir l'argent nécessaire pour m'octroyer une bouteille d'eau? Donc, à un moment donné, il faut qu'on se pose la vraie question. Aujourd'hui, le pays est dans une situation, il faut qu'on se dise réellement, qu'est-ce qu'on fait pour sortir le pays? Et c'est là où il y aura une convergence. Effectivement, s'il y a une stratégie claire et un objectif clair d'atteindre quelque chose et que les mécanismes sont là, vous allez fédérer tout le monde autour de vous et même la multiplicité des partis politiques à laquelle on fait allusion aujourd'hui, elle va se raffermir autour de quelques idéaux qui vont faire qu'effectivement, on va restreindre le champ et la dispersion des partis politiques. Vous allez comprendre que dans les autres pays sur lesquels nous calquons notre mécanisme de démocratie, mais même en France, vous n'avez pas 2-3 partis politiques, c'est faux. On a plus d'une centaine de partis politiques en France, on a plus d'une cinquantaine de partis politiques aux États-Unis. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ils s'y retrouvent? Parce que les projets sont bien ficelés et on se regroupe maintenant en famille idéologique. Quand vous dites que vous êtes un socialiste, ça veut dire que les socialistes vont accepter d'être ensemble pour compétir, pour se donner plus de chances. Les libéraux vont faire la même chose. Donc vous allez vous retrouver, grosso modo, dans 4, 3 ou 2 grandes tendances. Mais vous ne pouvez pas restreindre l'activité de la liberté à quelques individus. Donc, ça pose problème. Donc, toutes ces réflexions concourent à dire simplement que, effectivement, nous n'avons pas un mécanisme bien élaboré sur lequel, effectivement, vous avez une architecture qui permet de dire scientifiquement, voilà, qu'est-ce qu'on peut apporter réellement. Aujourd'hui, si je m'inscris, je prends juste un exemple banal. Je dis, bon, aujourd'hui, moi, dans mon principe, c'est de dire je nationalise toutes les mines du Mali. Ça va me permettre d'avoir des ressources suffisantes pour faire toutes les réformes dont j'ai envie. Alors, tous ceux qui sont d'accord avec ce principe, quelle que soit la coloration politique, vont me suivre dans cette dynamique. Peut-être que d'autres vont me dire, bon, nationaliser c'est un peu trop, exproprions, faisons ceci. Effectivement, on va diluer, mais on va être grosso modo dans la même tendance. Ou ceux qui disent, non, nous allons travailler avec le capital financier international, donc travailler avec les multinationales, exproprier nos concitoyens, ne pas leur donner un gramme d'or et tout amener de l'autre côté. Et après, moi, en tant que président, j'ai toutes les richesses. Voilà, c'est ce genre de choses qu'il faut réellement interroger pour dire quelle est l'orientation stratégique que nous prenons.
Madame Loda Koulibaly, vous êtes membre du réseau des jeunes femmes leaders de partis politiques et organisations de la société civile. Vous partagez les avis de M. Bokoum ?
Oui, oui. Sur ces actions-là, nous, sur ces propos, nous avons mené beaucoup d'actions là-dessus. En fait, on a mené des séries de rencontres des femmes du Mali, que ce soit dans les différentes régions, mais aussi il y a eu une rencontre de validation des propositions. Par exemple, quand les partis refusent d'aller se regrouper en idéologie, ça c'est dans leurs propres idées, même s'ils n'arrivent pas à réagir de cette manière. Maintenant, c'est à l'État ou bien c'est à nous, la société civile, de les conduire vers ça. En fait, pour les actions de refondation, nous avons travaillé sur les documents afin de contribuer aux réformes de ces documents-là. Il y a la recommandation, les propositions des femmes du Mali qu'on a eu à apporter sur les documents, que ce soit sur la constitution, mais aussi que ce soit sur la loi électorale, surtout sur la charte des partis politiques. Et dans ça, on a éliminé des critères qui font qu'une fois qu'un parti ne parvient pas à répondre à ces critères-là, soit tu es retiré de la scène politique ou bien le parti est destiné à dissoudre réellement. Parce que tu ne peux pas être un parti politique et que tu ne couvres pas trois quarts de l'étendue du territoire. Il y a des partis qui sont là juste pour les élections. Une fois, il n'y a plus d'élections, il n'y a plus de ces partis politiques-là. Et au Mali, on a plus de 300 et quelques partis politiques, mais tu ne peux pas trouver 20 ou 40 partis politiques qui ont un siège réellement et des militants réellement comme on le veut. Donc, il faut mettre des critères pour vraiment cadrer les partis politiques dans ce sens-là.
Alors,
moi, je voudrais juste réagir une minute, hein, parce que quand elle parle de 300 partis politiques, d'abord, l'État n'utilise aucun centime pour créer un parti politique. C'est des citoyens qui décident de créer de leur propre chef un parti politique. Maintenant qu'ils couvrent l'espace ou pas, en quoi cela nuit le développement économique, social et culturel d'un pays? Il s'agit réellement d'interroger ceux qui ont gouverné. Vous prenez ces 300 partis politiques, il y en a combien qui ont réellement géré et qui ont bénéficié de l'aide publique? Qu'est-ce qu'ils en ont fait?
60.
Alors, c'est ça le vrai problème. Pour moi, la somme des nuls est nulle. Ce n'est pas le nombre qui pose problème, mais c'est la qualité de la substance qui pose problème.
Alors, si vous avez,
excusez-moi, oui. C'est juste pour un peu l'accompagner dans sa dynamique, parce que les réflexions sont très intéressantes. Effectivement, à un moment donné, quand vous parlez même de la couverture, comment est-ce qu'aujourd'hui un parti politique couvre un espace? C'est des moyens. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez effectivement, en tant que société civile, avoir des leviers pour faire fonctionner ou ne pas faire fonctionner? Ce n'est pas possible. L'État aussi ne peut pas enfreindre aux libertés individuelles et collectives. Donc, quelque part, il s'agit d'avoir des mécanismes intelligents. Quand un parti politique se met en mouvement et qu'il n'a pas de siège, il n'a pas d'élu, mais il disparaît de lui-même. Les 300 partis politiques, c'est la création. Mais quand vous faites l'inventaire aujourd'hui, je vous assure, vous n'allez pas trouver ça en parti politique. C'est ça la réalité.
Alors, M. Diop, pensez-vous que les réformes électorales peuvent avoir lieu sans la révision de la Constitution?
Oui, bon, ça, ce sera effectivement des réformes à minima. Voilà, je pense que aujourd'hui, c'est pas la pensée de tout le monde, mais je pense que si nous avons décidons d'aller à ces réformes de minima, peut-être nous n'allons pas toucher, parce que la loi électorale peut être révisée sans qu'on touche à qu'on appelle la Constitution, parce que la Constitution consacre que c'est la Cour constitutionnelle qui va donner les résultats définitifs des élections. Si cette disposition reste, on peut toiletter. se mettre d'accord sur la révision de la loi électorale et partir aux élections. Mais si nous voulons carrément changer, comme je l'ai dit, il faut quand même qu'on touche à la Constitution. Et là, ça va nécessiter une révision constitutionnelle.
À ce stade, vous pensez que la prorogation de la transition serait bénéfique pour l'organisation d'une élection libre et transparente?
Je pense que déjà, par rapport à la prorogation de la transition, nous sommes devant la prorogation de la transition de fait. Mm-hmm. Voilà, nous sommes devant le fait accompli parce que, comme je l'ai dit, la transition devait être sanctionnée par la programmation des résultats des présidentielles. Mais aujourd'hui, nous venons de terminer ces 18 mois, on peut le dire, mais il n'y a pas eu d'élection. Donc, du coup, nous sommes aujourd'hui devant le fait que la transition est déjà prolongée. Maintenant, je me dis, il faut qu'on puisse se dire quelles sont les réformes qui vont être faites, dans quel temps, avec qui. Donc, comme ça, on pourra déterminer un calendrier qui est visible et qui est clair pour tout le monde. Et on saura, en un instant T, voilà ce que nous allons faire. Je pense que sans quoi, on ne pourra pas se prolonger sur un délai. Il ne fallait pas dire 5 ans, 10 ans, 3 ans, mais le travail qui doit être fait concrètement en matière de réforme, comment est-ce que l'État va s'y prendre et quels sont les acteurs qui seront impliqués? Je pense que si on a ça, le délai va forcément se dégager à partir de là. Mais si on ne part pas vers ça, on va tout le temps venir. Parce que voilà, l'ancien gouvernement avait mis en place un cadre de concertation entre la société civile, des acteurs politiques et tout ça. Le nouveau gouvernement, le Premier ministre qui est venu, a mis ça de côté. On est allé vers d'autres choses encore. Je pense qu'il faut une visibilité assez claire. C'est ce que j'ai dit. Ouais, cette histoire de parti politique va revenir et tout ça. Mais je pense que la charte des partis politiques, il y a des critères assez clairs. Aujourd'hui, on parle de 200 partis politiques, mais ceux qui ont bénéficié de l'aide à partir de 2001 jusqu'à maintenant, qui ont participé à toutes les séances, ça ne vaut pas plus de 70. Et seulement 66 ont bénéficié régulièrement de l'aide aux partis politiques. Donc, ça nous montre à suffisance que, oui, les autres là sont là seulement pour décorer la chose, mais dans leur essence, ce n'est pas des partis politiques. Parce que, voilà, c'est seulement des groupements de personnes qui disent qu'ils n'en sont pas, mais en réalité, ils ne le sont pas de par l'essence ou le rôle qu'ils doivent jouer. Donc, je pense que c'est des questions qu'il faut voir rapidement, je pense, donner un chronogramme assez clair et concis qui va montrer à l'ensemble des acteurs qu'est-ce qui va être fait et dans quel moment. Je pense qu'à travers là, on pourra acter cela pour dire que rapidement, on puisse retourner rapidement à l'ordre constitutionnel. Parce que je pense que cela aussi est important, parce qu'une transition qui va aussi durer dans l'éternité, je pense que c'est aussi dangereux.
Monsieur Bokoum, comment voyez-vous l'organisation de toutes les élections annoncées par la transition, référendum, présidentiel, législatif, entre autres?
Bon, je le disais tantôt, hein, c'est, en fait, tout ça dépendra. D'abord, on a une très mauvaise communication, on ne sait pas qu'est-ce qui est en train d'être fait et à quel niveau d'organisation les choses sont aujourd'hui. Sur quoi on a des avancées ou pas, on n'en sait absolument rien. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que moi, je pense qu'il ne s'agit pas de faire des élections pour des élections, comme il l'a dit. Parce que quand on ramène tout à des élections, c'est que vraiment on a un problème. On a connu des élections, mais on n'a pas eu de stabilité. Alors, donc, c'est de se poser les bonnes questions, comme il l'a dit tantôt, c'est qu'est-ce qu'on fait? Je pense que, d'abord, la réforme constitutionnelle, elle est indispensable. Indispensable pourquoi? Parce qu'il y a eu plusieurs tentatives de la modifier, ça n'a pas marché. Donc, ça veut dire que, réellement, cette constitution, elle est en panne. Donc, la transition, pour moi, est une opportunité pour dire cette constitution, on doit la changer. Maintenant, le calendrier, tout ça est faisable. Hein. Il faut juste qu'on se parle et qu'on se dise réellement qu'est-ce qu'on fait. Si aujourd'hui, le gouvernement sort un chronogramme avec une substance scientifique à l'intérieur, avec un objectif bien clair, et comment on va faire tout ça, je pense que très rapidement, la classe politique va se retrouver et se mettre d'accord sur le calendrier et la mise en œuvre. Donc, je pense qu'il n'y a aucun problème. Maintenant, je pense que c'est des questions hautement techniques qui font qu'aujourd'hui, nous ne savons pas ce qu'ils sont en train de faire. Nous savons qu'ils sont en train de le faire. Mais à quel rythme? Quand est-ce qu'ils vont être prêts? Quand est-ce qu'ils vont les annoncer? Toutes ces questions, je sais qu'elles sont prises en compte par l'administration. Maintenant, quel est le niveau d'avancement? On n'en sait absolument rien. Maintenant, je pense que le calendrier, de façon globale, quand on va dire 3 ans, 4 ans, c'est vrai, l'objectif pour nous, au départ, quand il y a eu ce changement, nous avons estimé que le changement était possible en 6 mois. Nos premières analyses, c'était qu'en 6 mois, on aurait pu faire un certain nombre de choses et puis faire des élections et partir très rapidement. Maintenant, malheureusement, sur les 18 mois, on a piétiné, il y a eu des changements, il y a eu beaucoup de choses. Donc, quelque part, aujourd'hui, on est obligé de considérer qu'on reprend. On reprend tout à zéro, pratiquement. Donc, le reste des 18 mois de transition ont servi juste à faire réellement l'état des lieux et à se projeter. Donc, en réalité, on est en train d'aller vers une phase aujourd'hui où on va peut-être nous dire qu'est-ce qu'on a programmé, qu'est-ce qu'on a projeté et comment on le fait. Et c'est ce comment on le fait qui va peut-être définir le timing dans lequel on va rester encore dans la transition. Ça peut être 6 mois, ça peut être 12 mois. Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas quel est le travail technique qui a été fait. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de dire que tout cela est faisable. Même l'intelligence qu'on a eu à développer au niveau des ANR aurait pu servir de tremplin pour aller, par exemple, à la réforme constitutionnelle. Sachant déjà que c'est difficile aujourd'hui de se mouvoir à l'intérieur du pays à cause de l'insécurité, la forme représentative qu'il y a eu au niveau des ANR aurait pu être un créneau où on valide quelque chose qui a été discuté en amont. Si aujourd'hui c'était entendu avec la classe politique sur quel modèle de constitution on allait mettre en œuvre, effectivement ça aurait pu être versé au niveau des ANR et validé comme tel minima pour aller à des élections présidentielles très vite. Donc, si on est d'accord sur ce principe que ce qui est faisable tout de suite, les élections de proximité seront difficiles à faire. Ok, est-ce qu'on fait juste les présidentielles et après, le président élu va s'occuper du reste? Alors, si c'est ça le consensus, c'était faisable par rapport aux assises nationales. Tout de suite, on amène une constitution. Mais ce qui a été, de mon point de vue, ce qui a manqué aux ANR, parce qu'on est allé dans l'opinion. Parce que quand vous partez dans ce genre de forum, les gens qui ne sont pas spécialisés dans des domaines vous disent quel est leur ressenti. Maintenant, la façon de mettre en œuvre cette expression pose problème parce que la personne peut ne pas se retrouver dans la façon dont vous, techniquement, vous allez faire l'agencement. Il a émis une idée, mais vous, vous êtes obligé de le transposer pour aller à l'action. Maintenant, entre l'idée originale et la façon de transcrire, vous risquez de vous retrouver en porte-à-faux avec la personne, même si l'idée est fondamentalement la même. Mais s'il y avait eu un travail scientifique en amont et qu'on est allé, par exemple, pour faire des propositions aux gens qui sont venus pour discuter, leur dire, bon, voilà tel modèle de constitution, 1, 2, 3 et 4, quel est votre choix? Voilà la réforme sécuritaire, 1, 2, 3, 4, le système de défense stratégique de la nation, voilà ce que vous propose, on se prononce. Donc là, du coup, ce qui sort des ANR peut facilement être exécutoire.
Pensez-vous que les Maliens allaient adhérer aussi à cela?
Mais c'est une démarche. Il faut faire un travail de communication en amont. C'est-à-dire, le problème, c'est parce que nos dirigeants, ils ne communiquent pas assez. Les gens n'ont pas à être contre forcément tout ce que l'État dit. Mais il faut que les gens comprennent juste que ce qu'on nous demande, c'est pour notre propre intérêt. C'est pourquoi on donne la possibilité de choix. Parce que le travail, il est scientifique. Ce n'est pas l'émotion. Par exemple, quand moi je dis, on a tué trop de Maliens, il faut que ça s'arrête. Oui, ça c'est en tant qu'humain, en tant que quelqu'un qui est sensible, qui a perdu des parents, oui, je le dis. Mais ça s'arrête comment? Techniquement, qu'est-ce qu'il faut faire? Le mécanisme d'organisation de l'armée, moi je ne suis pas un spécialiste. Il faut que des techniciens me disent, ok, si on fait tel processus, voilà ce que ça va donner comme résultat. Avec telle méthode, voilà ce que ça va donner. Lui, il me le propose. Et je dis, ah tiens, oui, c'est bon ça, parce que je pense que ça peut nous... Donc si on a une synergie d'action dans ce sens, et que les gens convergent, parce qu'il faut valider, il faut que la majorité soit d'accord avec ce qui va être fait. C'est ça l'avantage. Mais le travail technique, il faut qu'il soit fait en amont.
Oui, je vous en prie, Madame Koulibaly, pensez-vous que toutes ces élections sont faisables en même temps?
C'est faisable en même temps parce que c'est juste, il faut avoir une volonté réelle. Il faut avoir une volonté politique des autorités actuelles. Parce que tant que la volonté y est, on pourrait changer, bouger les lignes. Par exemple, il faudra commencer d'abord, comme l'autre l'avait dit, soit si on veut vraiment réviser la Constitution ou bien revoir la loi électorale d'une manière à ce qu'on pourrait faire tenir les élections sans toucher à la révision de la Constitution. Ça, c'est la première étape. Maintenant, après, c'est de donner vraiment un chronogramme acceptable pour la tenue des élections. Mais aussi, il faut une meilleure communication autour de la gestion du pays et surtout penser à l'implication depuis tout au début jusqu'à la fin du processus des élections, l'implication des femmes et des jeunes. Parce que sans ça, il y aura toujours des points d'interrogation qui seront là et qui pourront donner l'échec à la tenue des élections. Et il est important que les autorités de la transition soumettent un chronogramme acceptable, que ce soit pas pour l'international, mais pour nous en tant que Maliens. L'autre l'a dit, on ne pourrait pas rester dans une transition à durée indéterminée. Donc, il est temps vraiment qu'il commence quelque chose pour qu'on voit que les lignes sont en train de bouger afin d'avoir des élections, même si c'est dans 2 ans, dans 3 ans. Mais il faut un début de toutes choses et c'est important actuellement.
Monsieur Fousseni Diop, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour l'organisation d'une élection fiable et transparente?
Voilà, je pense qu'on va retourner, on va dire la même chose. Mm-hmm. Je le dis, il faut un consensus politique autour de tout ce qui va être fait en matière de réforme. Il le faut. Sans quoi, on a beau partir, ça va être difficile. J'ai dit, les acteurs politiques font partie du jeu politique. Absolument. En fait, ils ne sont pas à écarter. Je pense qu'il n'y a pas de... Voilà, on ne va pas s'entendre sur tout, mais il faut un consensus minimal pour pouvoir faire avancer les choses. Parce qu'après tout, qu'ils soient dans la gestion de gouvernance passée et tout ça, ils sont aussi des Maliens et puis leur voix aussi doit compter. Il a dit, il faut que aussi nous ayons un chronogramme de la part de l'État pour qu'on puisse voir. Parce que vous savez que réellement, récemment, par rapport au CNT, il y avait la loi électorale qui était sur la table, mais à la dernière minute, ça a été retiré. Pourquoi ça a été retiré? On ne le sait pas. Est-ce que c'est encore pour aller chercher ce consensus-là? Vraiment, on n'a pas de visibilité par rapport à ça. Il n'y a pas de communication autour de ça. Donc, je pense que c'est des éléments assez importants. Et comme je l'ai dit, plusieurs acteurs interviennent au-delà des politiques. Il faut que la société civile soit impliquée. Il faut que les jeunes et les femmes soient impliquées pour que nous puissions voir ensemble, voilà ce qu'on on prévoit de faire et voilà le temps que ça va nous prendre. Et comme ça, chacun va s'y mettre de son côté et aller rapidement vers ça. Et si cela est fait, je pense que ce soit la révision de la Constitution ou encore la révision de la loi électorale, la charte des partis politiques, la loi organique sur les députés, je pense qu'il y a pas mal de textes qu'il faut qu'on puisse réformer pour arriver à cela. Il faut aussi ne pas oublier la sécurisation aussi du territoire. Cela aussi est extrêmement important. Parce que si nous venons aller aux élections, il faut un déploiement de tous ces dispositifs-là sur l'ensemble du territoire pour qu'on puisse donner la chance à chaque Malien qui a l'âge de voter de pouvoir exprimer son droit. Je pense que ça va éviter pas mal de problèmes. Donc la société civile aussi a fait beaucoup de propositions dans ce sens. Je pense qu'il y a de la substance en matière pour mettre ensemble et sortir rapidement de quelque chose qui est consensuel pour qu'on puisse aller de l'avant. Parce que je dis, plus les jours passent, plus on part de temps, on va dans l'incertitude et plus ça va entraîner que beaucoup d'acteurs vont se remettre en question et se mettre à côté et en marge de tout ce processus-là. Je pense que c'est une chance qui s'offre à nous et je pense que 18 mois, on n'a pas pu faire quelque chose. Deux coups d'État, tout ça, on peine à pouvoir faire bouger les choses. Il faut aussi une dose de volonté au plus haut sommet de l'État. Tant que cela n'est pas fait, je pense que les choses ne bougeront pas. Et la société civile, en ce moment, viendra accompagner tout ce processus pour qu'on puisse connaître la date des élections, les préparations qui doivent être faites en amont pour qu'on puisse arriver à ça. Sinon, ça va être assez difficile.
L'inclusivité, c'est le maître mot, selon vous, pour l'organisation d'une élection crédible au Mali?
Vous savez, l'inclusivité, la notion d'inclusivité, elle est très complexe et très compliquée à définir parce que souvent, on a l'impression que... Voilà. Mais en réalité, c'est inclusif déjà parce que quand j'écoute madame, c'est comme si les femmes, les jeunes étaient mis à côté. Les partis politiques, c'est les femmes et les jeunes qui sont... Voilà, la grande partie. Si. Maintenant, tout le reste est discutable. Même quand vous regardez au niveau de l'élite, combien de personnes profitent de ce système? C'est une minorité, hein, parce que la manne financière de ce pays est gérée par une oligarchie. On le connaît. Donc, ce n'est pas la panacée des partis politiques. Quand vous regardez les partis politiques, chaque parti politique a sa petite société civile. C'est ça aussi la triste réalité. Donc, quelque part, la société civile, elle est présente, les femmes sont présentes, les jeunes sont présents, les hommes sont présents. Parce que quand vous parlez d'une famille, quand même, c'est un ensemble. Parce qu'un chef de famille, c'est quand même sa femme et ses enfants. Donc, c'est vraiment très complexe. Et la réalité est que je ramène toujours la chose à la gouvernance. C'est-à-dire que vous soyez un chef de famille, vous ne pouvez pas nier l'existence de votre femme ou de votre enfant. Maintenant, est-ce que vous êtes un chef de famille responsable? Ça, c'est une grande question. Donc, pour moi, le problème revient toujours au leadership. Il faut que le leadership soit éclairé, inclusif et partagé.
On va donner la parole à Mme Loda pour conclure. Mme Koulibaly, pensez-vous que des élections crédibles sont possibles maintenant au Mali?
Oui, c'est possible. Après toutes les propositions qui ont été évoquées aujourd'hui, je pense que quand les autorités vont commencer à travailler, c'est possible surtout d'utiliser les territoires, les personnes et leurs biens, mais aussi revoir. Si toutefois on doit aller à la révision de la Constitution, il faudra le commencer dès maintenant. Et pour revoir la loi électorale et toutes les autres lois qui sont là, et aussi annoncer un chronogramme qui est acceptable pour les élections. Donc je dirais que c'est possible. Mais quand l'autre disait que les femmes et les jeunes sont présents dans les partis politiques et qu'ils sont impliqués, moi je dirais non. Parce qu'on peut être là et que tu n'as pas d'avis à donner. C'est ça notre lutte. Il faut que les femmes et les jeunes soient représentés, mais aussi à des postes de décision, qu'ils puissent prendre des décisions réellement. Les femmes sont là, les jeunes sont là au sein des partis politiques, mais ils ne sont pas au niveau décisif des instances des partis politiques. C'est là où le problème vient.
Merci donc, beaucoup, Madame Koulibaly.
En apport des femmes et des jeunes.
Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Le thème était réforme électorale. Quel est l'état des lieux? Nos invités étaient M. Fousseni Diop, membre de la mission d'observation des élections au Mali, modèle Mali, M. Boubacar Boukoum, politologue, et Mme Loda Koulibaly, du réseau des jeunes leaders des partis politiques et organisations de la société civile. Moi, je suis Mariam Koulibaly. Le débat a été coordonné par Mamadou Touré à la régie vidéo et son. Il y avait Mamadou Ouattara et Salim Djouara. Merci et à demain.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani Ouamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chien Nibiri.
Halo du monde.
Chien Nibiri. Sigi Kafoba.